Bonjour, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est le premier proverbe qui me vient à l'esprit et très honnêtement, je n'avais pas prémédité de commencer cette émission en vous citant ce proverbe qui pendant très longtemps pour moi est resté quand même assez incompréhensible. Et même maintenant, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que ça voulait dire. Mais comprend-on jamais ce que veut dire un proverbe ? En tout cas, ces proverbes, ils nous accompagnent un petit peu toute notre vie comme une sagesse à la fois familière et mystérieuse et on sait pas trop d'où ils viennent. On sait simplement que ça fait longtemps qu'ils font partie de la langue. C'est pourquoi je ne prétendrai pas l'avoir lu du début jusqu'à la fin, parce que ça fait combien ? Ça fait quoi ? 1700 pages. J'ai parcouru abondamment et avec beaucoup de plaisir le gros dictionnaire des sentences latines et grecques, tout récemment paru aux éditions Jérôme Millon, qui est un dictionnaire qui a été compilé par Renzo Tosi et qui a été traduit de l'italien par Rebecca Lenoir. Renzo Tosi et Rebecca Lenoir, merci infiniment d'être avec nous pour nous parler justement de ces proverbes et du rapport qu'il peut y avoir entre des proverbes anciens, des proverbes dont on sait qu'ils se sont dits ou qu'ils ont été écrits en latin et en grec, et notre pratique des proverbes actuels. Alors, il y a un petit essai d'Umberto Eco au début de ce gros dictionnaire et ensuite on n'a plus qu'à plonger dans cette forêt de proverbes. Alors, une question sur votre travail, Renzo Tosi. Ça fait longtemps que vous réfléchissiez à cette possibilité de faire un dictionnaire des proverbes anciens.
C'est longtemps. En 1982, monsieur Alfonso Traina, qui était professeur de latin dans l'université de Bologne, l'université où je suis professeur, moi aussi je suis professeur, m'a demandé de faire un petit recueil des proverbes latins, des proverbes grecs. Alors j'ai commencé à préparer ce petit recueil, mais alors monsieur Evaldo Violo, qui était le directeur de la maison d'édition Rizzoli, m'a dit qu'il était mieux d'écrire un dictionnaire. Alors j'ai commencé à préparer, à trouver des matériaux, et ça a été une forêt.
Ah oui, j'imagine, une forêt que vous avez incroyable, explorée depuis près de 30 ans alors.
Oui, parce que l'on pense que toutes les langues ont des proverbes tout à fait différentes. Tous les gens pensent que les proverbes, c'est la sagesse des peuples et que les proverbes français sont différents, tout à fait différents des proverbes italiens, des proverbes anglais. Mais ce n'est pas...
Justement, si on parle de sagesse des peuples et de sagesse des nations, c'est parce que très souvent, on trouve des conseils qui se retrouvent d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. On a cette difficulté des proverbes, c'est-à-dire qu'à la fois, on a des proverbes qui se contredisent les uns les autres, du genre à père avare, fils prodigue, et puis d'un autre côté, on voit que les parents ressemblent aux enfants et on va dire les chiens font pas des chats. Voilà, ce sont des dictons, peut-être pas vraiment des proverbes, mais ils ont bien entendu des sens totalement différents. Ça veut pas dire que l'un est juste et l'autre est faux, mais ça veut dire qu'on va en faire usage dans des circonstances différentes. Oui. Donc il y a des contradictions dans les proverbes au sein
toujours,
d'une même langue, toujours, dans toutes les langues. Autre côté, je pense que d'une langue à l'autre, très souvent, on retrouve les mêmes images les mêmes conseils.
Et les mêmes images, les mêmes conseils arrivent, viennent dans notre tradition, dans la tradition occidentale, mais je pense dans la tradition européenne entière, de l'ancienneté, des proverbes latins, des proverbes grecs. Il y a une tradition qui continue, une autre tradition qui passe à travers le Moyen-Âge et arrive jusqu'à nous.
Thank you. justement une des choses qui frappe le plus quand on pense aux proverbes, c'est ce côté à l'ancienne. On dit des proverbes comme si c'était des phrases un petit peu archaïques. Archaïques jusque dans leur grammaire, jusque dans leur syntaxe. En français, en tout cas, parce que très souvent, il y a des souvenirs, des réminiscences de l'ancien français ou du moyen français qui donnent à la fois cette impression de sagesse ancienne et de sagesse impersonnelle. Par exemple, vous allez me dire, vous qui avez fait ce travail en italien, vous êtes italien, vous êtes en même temps latiniste et helléniste, vous travaillez sur la langue latine et sur la langue grecque. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu semblable dans les langues d'origine à ce qui donne la particularité des proverbes français? C'est-à-dire que très souvent, on commence par un pronom relatif qui est un pronom sujet. Du genre, qui paye ses dettes s'enrichit, par exemple. C'est-à-dire, celui qui paye. On paye ses dettes, donc on s'enrichit.
Mais
de façon, alors, est-ce que ça existe?
Mais on ne dit pas qui, c'est lui qui. On dit qui parce que c'est une réminiscence de la langue latine. Et le proverbe est un peu archaïque. En italien, il y a dans le proverbe quelques mots latins qui n'existent plus. Mais en anglais, si l'on a vu le fameux, le célèbre film, je ne sais pas comment se dit en français, le silence des innocents.
Le silence des agneaux.
Des agneaux.
Un film qui fait peur.
Oui. Et dans ce film, il y a une expression traditionnelle anglaise, un proverbe, quid pro quo, qui est justement latin.
Alors, quel est ce proverbe? Vous allez nous le citer.
Quid pro quo en latin signifie une chose au lieu d'une autre.
Ouais. Une chose pour une autre.
Pour une autre. Mm-hmm. En anglais, elle reste quid pro quo, mais avec une autre signification.
Et une autre signification. On a gardé les mots latins d'origine, mais ils ont fini par changer de signification à force d'être utilisés.
Oui.
Ils sont devenus des mots anglais, quoi.
Oui, on dit « d'audace ». J'ai donc quelque chose pour avoir une autre chose.
Je donne une chose pour avoir autre chose.
Une chose. Ah, oui. Quid pro quo. Mm-hmm. En anglais, et surtout dans la langue américaine, signifie à ça.
Rebecca Lenoir, je me tourne vers vous maintenant, puisque vous êtes la traductrice de ce gros dictionnaire des sentences latines et grecques. Est-ce qu'un proverbe est dur à traduire et est-ce que votre travail a été particulièrement difficile dans la mesure où il y avait déjà un passage du latin ou du grec à l'italien et un deuxième passage de l'italien au français, puisque vous avez traduit ce dictionnaire depuis l'italien?
Je crois qu'on peut dire que ce n'est pas une traduction. Ça a été une collaboration sur l'immense travail de Renzo Tosi. Et on a réalisé un autre dictionnaire, en fait, que le dictionnaire qui était paru en Italie, puisqu'on a rajouté plus de 1000 sentences, hein, Renzo, ça doit être ça.
Donc vous voulez dire que l'édition française est beaucoup plus riche que l'édition italienne?
Tout à fait, c'est une nouvelle. On a gagné à la traduction. C'est une nouvelle édition, c'est pas une traduction, c'est une nouvelle édition. Donc à la fois, il fallait traduire les commentaires de Renzo, mais il fallait aussi parfois ajouter des choses quand c'était possible, faire des petites incursions par rapport à, moi, mon capital, on va dire, culturel, et bien faire attention à ne pas glisser de sens d'une langue à une autre.
Quels étaient les dangers, justement?
Il y a toujours
éviter.
Des dangers,
quels
mais...
Quels étaient les écueils?
On a là parfois l'impression que les proverbes se ressemblent, et un travail philologique sur les sources permet de bien identifier le sens premier. Et c'est ça qui, en définitive, est passionnant. Pour raccrocher sur ce que vient de dire Renzo, il y a d'abord un premier travail de recensement. Les sources, peut-être la première occurrence de l'apparence d'un proverbe, hein, Puis ensuite, sa vie propre. On vient d'avoir un exemple sur le quiproquo anglais qui n'a rien à voir avec le quiproquo français, ni avec le quid pro quo latin presque.
Alors, dites-nous en deux mots ce qu'on appelle un quiproquo en français. C'est une situation embarrassante parce que l'un croit une chose et l'autre croit autre chose.
Exactement.
Donc c'est un malentendu.
C'est un malentendu. Hein. En anglais, non. En latin, pas tout à fait.
Et en anglais, alors qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Alors, c'est ce que vient d'expliquer Renzo. Je te donne quelque chose pour que tu me donnes autre chose en échange. Donc, que nous, on exprimerait, je crois, par une autre expression qui ne me vient pas comme ça à l'esprit. Donc, ça, c'est passionnant.
Échange de bons procédés, comme
voilà,
on dit.
Voilà, oui. Un prêté pour un rendu, peut-être.
Pas mal,
hein?
Pas mal.
Un prêté pour un rendu. Donc, il y a eu ce travail qui était... Je suis aussi latiniste, donc forcément, j'ai abordé la traduction, pas en traduisant le latin de l'italien, voyez-vous, mais directement de la des sentences directes.
De la langue source
de, voilà, de la langue source latine ou hellénique. Moi, je penserais déjà presque plus à ce que ce travail pourrait devenir. Cette somme peut toujours être encore augmentée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un puits sans fin. Mais en même temps, elle offre la capacité à d'autres chercheurs, ou peut-être à nous, je n'en sais rien, d'en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire maintenant, il faudrait presque trier ce premier matériel qui est énorme et voir de quelle façon il s'ordonne par les auteurs qui l'ont réutilisé et qui introduisent aussi quelque chose de différent. Je pense par exemple à un proverbe comme « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Je crois qu'on peut la trouver, je pense, à peu près partout. Et pourtant... Je pense aussi à Jacques Prévert, qui a dit « Si la parole est d'argent et que le silence est d'or, alors le cri du cœur est comme un diamant multicolore. » Voilà ce que c'est, dans le fond, un proverbe. C'est quelque chose qui prend racine dans des sources communes, qui sont latines et grecques, même parfois plus anciennes que latines et grecques, et qui sont étrangement, découvrons-nous à la lecture de cet ouvrage, celles de notre Europe, et peut-être même aussi d'autres pays qui dépassent l'Europe, et aussi une matière vivante qu'on s'approprie et qu'on transforme. Donc là où l'expression paraît la plus archaïque, c'est là où elle est la plus vivante, parce qu'elle est chargée de contenu comme une petite pierre, comme vous avez dit au début de votre émission, qui va s'enrouler d'une mousse qui diffère suivant les âges et les auteurs. Et ça, ça m'a passionnée. Et ça, ça m'a passionnée, et je pense que on est à l'orée d'une seconde forêt, et qui vaudrait le coup. Hein.
Alors, avant d'explorer cette seconde forêt, essayons de voir un petit peu d'où viennent les proverbes. Bon, la question est trop vaste pour qu'on puisse s'en tirer avec une seule réponse. Mais par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de proverbes dont l'origine est historique, qui sont des mots historiques, vrais ou supposés, vrais ou reconstruits?
Il y a une grosse importance des grands écrivains. Virgile, Tite Live... Quand il prend une expression, alors l'expression est plus facile qu'elle devient proverbiale.
Il la transforme en proverbe. Ça devient un proverbe.
Par exemple, l'expression qu'elle a citée, le silence
la parole est d'argent,
le silence est d'or, une expression qui a son origine dans la Bible, où il y a la parole est d'argent. Mais la parole est d'argent... signifie que la parole de Dieu, c'est une grande chose, c'est très précieuse. Mais, dans les écrivains, les grands écrivains de la chrétienté, dans le Moyen-Âge, on a dit que la parole est précieuse, mais la vertu est d'or. Et puis, il y a eu des autres écrivains qui ont dit que la parole est d'argent et le silence a contraposé la parole et le silence, parce qu'il y avait une tradition qui contraposait la parole et le silence.
Suggestions,
des commentaires,
des informations,
vous pouvez nous écrire par courrier électronique
danse.mo@ www.rfi.fr.
Alors, de nouveau, je me tourne vers vous, Rebecca Lenoir, pour vous demander justement si la Bible est un réservoir très important de proverbes. Il y a tout un livre de la Bible qui est le livre des proverbes. Est-ce que la façon sentencieuse de s'exprimer par un proverbe est quelque chose qu'on trouve très souvent dans le style biblique ?
Style biblique, alors là, il faudrait y consacrer
un style biblique,
une émission.
Il y en a plusieurs, hein, bien sûr.
Un des plus gros ajouts de cet ouvrage ont effectivement puisé beaucoup dans la tradition, on va dire, de la patristique et des textes
qu'est-ce qu'on
bibliques.
Qu'est-ce qu'on appelle la tradition, hein, de la patristique?
Alors, la patristique, je pense qu'il faut distinguer d'abord les premiers textes originaux. Mm-hmm. Pour vous donner un exemple, prenons donc la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il me semble que c'est un exemple intéressant parce qu'on dépasse le cadre du latin et du grec. Au départ, on est dans une langue qui est différente, qui va passer après par des traductions latines. Au tout démarrage, la loi du talion a été formée pour essayer de dire que la vengeance n'était pas forcément un règlement qui pouvait déboucher sur quelque chose de positif. Donc l'idée de la loi du talion initiale, c'était de dire, il faut trouver un système pour qu'il y ait une compensation. Après, la tradition chrétienne s'en est saisie de ce œil pour œil, dent pour dent, et en a fait toute autre chose, avec parfois des connotations très antisémites, puisque le Nouveau Testament a complètement renversé la donne en disant, nous ne sommes plus dans la loi ancienne, en oubliant que cette loi ancienne voulait juste dire, prendre son couteau et égorger l'autre n'est pas une solution. Il faut essayer peut-être de trouver une compensation et une manière plus civile de parlementer et de régler les problèmes. Pour revenir à votre question première, tous les textes, je crois, écrits, c'est-à-dire les textes des intellectuels, sont matière à proverbes. Et le plus passionnant de cet ouvrage, c'est lorsqu'on le ferme, on se rend compte que, mon Dieu, la limite entre sagesse populaire et sagesse philosophique est bien mince et bien ténue, et qu'elle fut peut-être introduite par nous bien après. Mais qu'en définitive, les meilleurs forgeurs de formules restent les poètes et les écrivains. Une petite parenthèse pour dire que dans le milieu de la publicité, paraît-il que les meilleurs créateurs de slogans sont les poètes. Et cela ne nous étonnera pas. Donc je ne différencierai pas les textes bibliques de la matière littéraire. Et je dirais que toute matière littéraire est prétexte à création de proverbes.
La question qui me paraît intéressante, c'est savoir si les proverbes ne sont pas une façon de se situer à mi-chemin entre l'écrit et l'oral. Très souvent, quand on parle de proverbes, on entend citations. Ce sont des petites citations avec presque des guillemets qui émaillent la conversation comme un souvenir de sagesse populaire, quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Quand je cite un proverbe, d'une certaine façon, c'est plus moi qui parle. C'est la sagesse populaire qui parle dans mon discours. Donc, on emprunte à quelque chose peut-être d'écrit, mais en même temps, ces proverbes, quand on les voit dans un texte écrit, ont une caractéristique incroyablement orale, comme s'ils étaient justement prononcés, comme s'ils avaient ce raccourci qui est une caractéristique que parfois on va accoler à la langue orale. Alors, est-ce qu'on est dans un entre-deux, Rebecca Lenoir ?
Je crois qu'on est dans un processus de mémoire, dans diverses strates. L'autre jour, je me promenais dans un cimetière de Charente. mais j'aurais pu me promener au Père-Lachaise, je crois que ça aurait été la même chose. Les cimetières sont des réservoirs de proverbes latins en France. Et dans des lieux les plus étonnants...
Les cimetières sont les pages roses de nos villes ?
Je crois que c'est plus que des pages roses.
Parce que c'est ce qu'on laisse. Vous vous souvenez que dans le dictionnaire Larousse, c'est là qu'il y avait un petit, entre les noms communs et ce qu'on appelle les noms propres, il y avait quelques pages roses où il y avait un certain nombre de proverbes.
La mort, c'est un moment, important. Et ce qu'on laisse comme petite pierre, sur les tombes des êtres que l'on aime, c'est quelque chose qu'on essaye, quelque chose qui a du poids. Et je me suis dit, dans le fond, ils sont bien à leur place, ces proverbes. À la fois, ils font un pont entre les vivants et ceux qui ont disparu, et ils essayent de léguer à ceux qui vont venir après quelque chose d'autre. Et pourquoi est-ce qu'on utilise des proverbes dans la conversation, par exemple ? C'est souvent lorsqu'on est dépassé par quelque chose. Et qu'on n'a pas la réponse. Alors on va emprunter le langage d'un autre, les paroles d'un autre. Parfois on ne sait pas lequel c'est, mais en tout cas quelque chose qui nous appartient à tous, mais qui nous dépasse aussi. Mais je pense que Renzo aura une réponse différente sans doute.
Alors qu'en pensez-vous, Renzo Tosi ?
Je pense que c'est juste, c'est vrai, mais je pense que il y a une continuité entre la tradition orale et la tradition écrite. Il y a des proverbes qui viennent des gros écrivains, il y a des écrivains qui reprennent les proverbes. Et quand je parle d'un grand écrivain italien, Verga, reprend souvent le proverbe. Il veut mettre dans la bouche de ses personnages quelque chose de populaire. Mais les proverbes populaires ne sont toujours seulement la sagesse des peuples. Parce que sinon,
c'est autre chose. Sinon, c'est pas que la sagesse des peuples.
Je pense que sinon, disons que les proverbes sont seulement la sagesse des peuples, nous pensons que les proverbes sont une tradition de pas trop importante. Mais les proverbes sont liés même à la grande tradition culturelle. Il n'y a pas de grosse différence entre la tradition érudite et la tradition populaire.
Oui. Parfois, les proverbes, on les tire des titres, notamment des titres des pièces de théâtre, et parfois, les pièces de théâtre vont chercher leurs titres dans leurs proverbes. Mais là aussi, il y a un jeu d'échange. Par exemple, chez Shakespeare, il y a un certain nombre de titres de pièces qui servent maintenant de proverbes. Tout est bien qui
tout
finit bien.
Tout est bien ce qui finit bien.
Alors, c'était peut-être antérieur à Shakespeare, bien sûr, mais ça nous sert de proverbes, et c'est... Le titre, justement, évoque ce clignotement. Est-ce que c'est de la sagesse immémoriale, ou bien est-ce qu'on va en donner un exemple, une preuve, maintenant? On a ça chez Musset aussi. Il y a, par exemple, toute une série de petites pièces d'Alfred de Musset qui ont un titre générique qui est « Comédie et proverbe ». Et on a « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ».
Chez Balzac aussi,
oui,
il y a.
Chez Balzac, hein.
Oui, par exemple, Rebecca Lenoir.
Ben, moi, j'ai été très surprise de voir à quel point Balzac puisait dans les proverbes presque constamment.
Oui.
Et les déstructurait. Et ça, alors, j'en ai pas un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, mais il y aurait vraiment un bel ouvrage à faire, un bel article à faire sur l'ironie de Balzac par rapport aux proverbes. Il les déstructure.
Pourquoi ? Parce que c'est du détournement.
Il recrée quelque chose avec, il s'amuse avec les mots, il fait des jeux de mots. Je crois que Balzac, c'est un exemple merveilleux de faiseur de mots, quoi, de faiseur de...
Non, mais Rebecca a cherché d'autres matériels. J'espère qu'elle écrira quelque chose sur son matériel qui n'a pu entrer dans ce dictionnaire.
Qui est pourtant important et qui pèse de son poids, je peux en attester.
Un kilo 500.
Ne peut être inséré, mais c'est juste que, Il est juste qu'elle les écrit, qu'elle écrit des articles.
On attend donc une nouvelle édition de ce dictionnaire des sentences latines et grecques, mais en attendant, on peut lire celle-là, qui est parue donc aux éditions Jérôme Millon, qui est signée par Renzo Tosi, qui a écrit tout ça en italien, mais ça a été traduit et enrichi par Renzo Tosi et Rebecca Lenoir dans cette belle édition française. Merci encore Renzo Tosi, merci Rebecca Lenoir d'avoir participé à cette danse des mots, une émission proposée par RFI et le Centre National de Documentation Pédagogique, Laura Pinto, Roger Palmieri, Yvan Hamar. Mm-hmm.